Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, et en ce lundi, on recommence la semaine avec un sujet, vous allez voir, qui scotche. Je vois pas comment le dire autrement, puisque nous allons entendre un témoignage, celui de Juliette qui a accouché dans un taxi. Voilà, on se croirait dans un film américain avec cette vision romantique qu'à Paris, les femmes accouchent dans des taxis. Et bien écoutez, là, c'est ce qui est arrivé à Juliette. Donc on va écouter Juliette, et puis ensuite, on aura des bons conseils du professeur Jackie Nizard qui nous dira que faire si on est amené à, pas forcément accoucher dans un taxi, mais en tout cas, avoir ce que l'on appelle un accouchement inopiné. C'est parti, on écoute Juliette, vous allez voir, ça va vous scotcher.
Des femmes qui ont vécu des accouchements rocambolesques, bah, on en a reçu plein dans la maison des maternelles. On adore ce genre d'histoire, évidemment. Mais alors, l'histoire que vous allez entendre ce matin, bon, bah là, je pense que sur l'échelle de l'accouchement inopiné, on est, mais bah, c'est-à-dire qu'on est dans la stratosphère. Bonjour Juliette.
Bonjour.
On est trop, trop contents de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous êtes la maman d'Olympe, qui a 2 ans, et de Lorelai, née il y a 9 mois. Voilà, dans des conditions, on va dire, inimaginables. Vous avez accouché totalement seule, à l'arrière d'un taxi, vous-même. Vous n'étiez même pas avec le père, rien du tout, et vous étiez sur le périphérique parisien. Alors déjà, premier accouchement qui s'est plutôt bien passé, quasi à terme, assez rapide. Vous étiez à la maternité Saint-Joseph à Paris, et sous péridurale. On dit souvent, bon voilà, le deuxième, si l'accouchement a été rapide pour le premier, il faut quand même être dans les starting blocks. Donc vous attendiez, j'imagine, à accoucher rapidement.
Oui, je m'attendais à accoucher rapidement. En plus, la sage-femme m'avait prévenue à ma dernière visite maternité, étant donné que j'avais vécu une menace d'accouchement prématuré au 7e mois, qui avait heureusement pu être stoppée. J'étais déjà ouverte à deux, le col partiellement effacé, et la sage-femme m'avait dit vous n'irez pas jusqu'au terme. Mon terme était fin décembre, et début décembre, elle m'a dit « Bon, faudra venir vite.
» Attention, ne traînez pas.
Voilà.
Là, vous avez un mari qui est anesthésiste réanimateur, c'est ça ?
Eh oui.
C'est pratique, hein, pour quand on sait qu'à la limite, on peut accoucher rapidement. Vous en parliez, vous vous disiez « Oh là là, il va falloir quand même se préparer à un accouchement express ?»
Bah oui, je lui ai répété ce que m'avait dit la sage-femme, et il m'a dit « Bon, alors, à mon avis, moi, je lui parlais déjà d'accouchement inopiné. » Je lui disais « Mais du coup, imagine que ça m'arrive. Quand c'est un deuxième, il faut faire garder le premier, donc on ne part pas nécessairement quand on veut aussi. » Et il m'a dit « Écoute, l'accouchement inopiné, moi, j'y crois pas. Par contre, prépare-toi à accoucher sans péri. Tu peux ne pas avoir le temps. » Et moi, ça m'allait très bien d'accoucher sans péri. Je me suis dit « Bah, c'est que ça va vite, c'est que ça se passe bien. Ok, je me prépare. » Mais du coup, pour l'accouchement inopiné, je me suis quand même renseignée, j'ai regardé des vidéos, ce qu'il fallait faire et tout. Et je faisais des petites blagues parce que je sentais ma fille bien, bien basse dans le bassin. Et parfois, je me levais de ma chaise et j'avais l'impression qu'elle allait rester. Donc, je passais au milieu du salon tout le mois de décembre et je disais « Réflexe !» comme ça pour mon mari. Et c'était une blague entre nous. Et c'est... Voilà, on rigole.
Bah ouais, on rigole, mais on arrive au 17 décembre, hein, tranquille, après avoir fait la petite blague du réflexe tout le temps, parce qu'on n'y croit pas vraiment.
Non.
Donc là, c'est le matin. 17 ouais. décembre, les contractions ouais. se rapprochent.
Ouais.
Vous prévoyez avec votre mari de vous retrouver à 10h30 à la maternité en vous disant « Oh là, ça commence à craindre quand même ouais. » parce qu'il y a beaucoup de contractions. Mais lui, il a un rendez-vous qui ne peut absolument pas manquer à 9h40. Mmh. C'est pour sa thèse, donc voilà. Et vous dites « C'est pas possible, il faut que je parte à la maternité avant le rendez-vous parce que la douleur est trop forte. »
C'est
vous
ça.
Vous partez.
Je pars. Je ne l'attends pas. Je lui dis « On se retrouve directement à la maternité. » Donc voilà, j'avais eu plusieurs jours de faux travail, mais là, je sentais que c'était pour de bon. Et j'étais avec ma grande fille, j'avais peur de crier devant elle. Il fallait que je parte. Ouais. Donc 9h40, ouais, je prends le taxi. Juste après avoir terminé Petit Ours Brun, en retenant les cris. Et donc j'arrive dans le taxi, je préviens le taxi quand même que vous
partez pour accoucher.
Oui, voilà, même si je suis montée sur mes pieds dans le taxi et que je lui ai dit, voilà, j'avais peur de souffler un peu, on va dire, parce que les contractions, elles commençaient à piquer.
Ça l'a fait stresser, lui, quand vous lui avez dit ça ou pas ?
Pas du tout.
Ah oui ? Il était détente.
Détente, on parle normalement, et vous habitez où ? Et vous avez déjà des enfants, très bien, small talk de taxi, quoi.
Ça dure 10 minutes, et puis à 9h50 la contraction avec un grand C, celle qu'Anarois décrit très très bien avec la veine, là. Voilà, le truc où on est là.
Ah oui, alors je ne sais pas du tout quelle tête j'avais, mais c'est vrai que j'étais en train de de vivre ma vie normale en partant de la maternité, que d'un coup, je bondis du siège et je vois que je ne peux pas être debout non plus. C'est-à-dire, je ne peux pas être assise, je ne peux pas être debout. Donc, je me détache. Je me détache et je tombe sur le côté, sur mon sac de salle de naissance, là, qui m'a servi de coussin. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi je ressens ça? Donc, je me dis...
En fait, c'est une contraction qui ne s'arrête pas, quoi.
Non, elle ne s'arrêtait pas. Elle ne s'arrêtait pas et il n'y avait plus aucune position où j'étais bien. Donc, je me dis, il faut que je sache ce qui se passe. Et tant pis, le taxi va me prendre pour une dingue, mais je baisse mon pantalon. Je lui parle normalement de la pluie et du beau temps. Et là, je me mets les fesses à l'air.
C'est vrai que vous essayez de faire diversion un peu. Vous dites, sinon, ça ne va pas trop d'embouteillage en ce moment.
En fait, je ne calcule même plus. Oui. Je ne le vois plus, quoi. Et je m'auto-examine pour comprendre, en fait, ce qui se passe. Et je fais même pas un vrai toucher vaginal ou quoi. Je sens la poche des os.
C'est-à-dire que c'était vraiment là, à la limite, quoi.
Ah bah ouais, mes doigts rebondissent dans la poche des os, et en fait, bah là, je comprends, j'y crois pas, mais je comprends ce qui se passe. Et je dis non, pas moi, pourquoi moi?
Donc là, vous vous êtes dit, bon, forcément, je vais pas arriver à la maternité, non. Quoi, c'est sûr, je vais accoucher dans ce taxi. Vous avez prévenu votre conjoint?
Oui, parce que du coup, quelques secondes de répit, en fait. La douleur, elle est suspendue, et je trouve mon téléphone, je l'appelle, et il me dit, je suis en route pour la mater. Je dis, ça va pas le faire. Enfin, j'ai la poche... Et là, il me dit, il est mignon, parce qu'il sait, en fait, que ça tiendra pas, et il me dit, essaye de ne pas pousser. Oui. Non. Et j'ai l'impression que je raccroche avec lui, mais en fait, je raccroche pas, je perds mon téléphone, et il m'a entendu crier, en fait, et c'était parti, quoi.
Et le taxi vous a proposé d'aller dans un autre hôpital, plus proche, mais vous, vous teniez absolument à aller...
Ouais, je sais que c'est important d'aller là où on est suivi, je savais surtout que même un hôpital plus proche, ça le ferait pas, en termes de temps. Donc c'était important pour moi d'aller là où mon mec m'attendait, et où il avait pu prévenir l'équipe aussi de ce qui se passait. Donc j'allais arriver... trop tard, mais j'allais arriver dans un endroit où j'étais attendue.
Parce que là, il faut quand même que vous réalisiez, vous qui nous écoutez, vous l'imaginez, Juliette, donc là, vous êtes sur le dos.
Ouais, je
passe sur
le dos. Derrière
le taxi, avec le pantalon baissé, en train de vous examiner, et vous vous dites, là, c'est pas possible, la tête va sortir, quoi.
Ouais, et en fait, très très vite, il y a le moment de la pousser, et là, c'est... Je ferme les yeux parce que j'ai pas envie de voir le périph défiler sous mes yeux, et je fais tout au toucher. Je sens que ma fille arrive et c'est vraiment le cercle de feu. C'est très, très, très intense. J'ai l'impression que je vais me déchirer en deux. Je pousse des cris, je pense très, très rauque. Et je sens sa tête qui me dit « ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer ». Et voilà, il n'y a personne, en fait. Je suis toute seule, enfin, avec ma fille. On a fait ça ensemble. Je sais que c'était bientôt Noël, mais... mais même dans les films de Noël, il y a toujours quelqu'un pour aider, ou le taxi qui s'arrête, ou un gars déguisé en Père Noël qui...
Oui, c'est ça, dans Amour, gloire et beauté, normalement, ouais, on se fait accoucher par un passant.
Voilà, par un passant.
Ou le taxi, voilà.
Qui d'un coup se révèle, sauf que là, il y avait moi, et j'ai compris que c'était quelque chose que j'allais vivre seule, en fait. Et je me suis dit, bon, pousse. Pousse, il n'y a rien d'autre à faire. Pousse et essaye d'accueillir cet enfant-là, maintenant.
Le taxi ne disait rien pendant ce temps-là?
Je l'entendais crier, mais très flou. Je l'entendais, il disait « Madame, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et j'étais concentrée pour que cette tête passe, parce que pour moi, ça n'allait pas passer. Ou alors, il n'y aurait plus rien après.
Alors, la tête est passée, mais après, comment vous avez fait pour l'attraper et la faire sortir complètement?
La tête est sortie, et la poche des os a éclaté quand la tête est sortie, d'ailleurs. Et donc, je me retrouve un peu une accalmie avec je sens une boule toute mouillée, donc la tête entre mes jambes, et je me dis comment je la sors de là. Je sais que je ne dois pas tirer dessus, je sens le cou qui est tout fragile, je me dis oh là. Et surtout, c'est inerte en fait, il n'y a pas de cri, il n'y a rien, je ne vois pas ce qui se passe puisque je suis sur le dos, donc c'est que au toucher. Puis il y a une contraction qui arrive, je sens un petit pli, je me dis ouh, c'est l'aisselle de ma fille, et je mets mes mains, je l'attrape, je la fais tourner, je la sors, et enfin je la vois. Je me retrouve avec mon bébé au-dessus de moi, qui ne crie toujours pas, mais qui est bien rose.
Donc ça vous a pas inquiété?
Non, j'étais trop trop heureuse de voir qu'elle allait bien. J'ai su tout de suite. Tout de suite, mon cerveau s'est dit bon, allez, elle va bien. Par contre, qu'on n'est pas arrivé, il faut la tenir au chaud. Voilà, ça c'était
bon
l'urgence.
Bon réflexe, hein.
Ouais, l'urgence, c'était l'hypothermie. J'étais là. Le taxi me dit Madame, qu'est-ce qui se passe? Je dis mais elle est née, monsieur, elle est née. Quelle heure est-il?
Et c'est lui qui a annoncé l'heure de la naissance.
Oui, il me dit Madame, il est 9h57, on est porte de Versailles. J'ai fait OK.
Et alors, cette rencontre avec votre fille?
Eh ben, c'était un vrai atterrissage, quoi. Je relève mon t-shirt, j'avais pas pu enlever mon manteau, la couverture était inaccessible, donc j'ai replié mon manteau sur elle, j'ai mis au sein, et je la regardais, j'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est que cette... Je suis montée seule, et je vais descendre de ce taxi à deux, quoi. Et on avait un bon quart d'heure avant d'arriver encore à la maternité.
Ah oui, encore un quart d'heure.
Ouais.
Et comment vous avez prévenu le papa, alors?
Ben, j'ai fini par retrouver mon téléphone. Ah oui, j'ai pris mon téléphone, je lui ai dit... Elle est née, il m'a dit « on vous attend ». Et j'y croyais pas, ce qui venait de m'arriver. Donc, tant que j'avais mon téléphone dans la main, je me suis dit « fais une photo ».
Ah oui, alors il y a le
selfie. Fais une photo. Non pas que j'ai la culture du selfie, mais je me suis dit « en fait, tu n'y croiras pas. Là, tu es en train de planer, tu as les hormones, les trucs ». Et donc, j'ai fait cette photo pour moi-même me persuader de ce que j'avais vécu. J'ai même pas visé, quoi. Je lui dis « allez, il y a deux têtes dans le viseur, je la prends ».
Alors après, comité d'accueil à la maternité, on s'est occupé de vous. La sage-femme a coupé le cordon. Émotion, j'imagine, de retrouver le papa. Est-ce que vous êtes restée en contact avec ce chauffeur ?
Eh bien, malheureusement, non. On a écrit à G7 pour essayer de le retrouver. Mais non, mon mari l'a revu pour le remercier, pour le payer aussi, pendant que moi, j'étais en train de vivre la délivrance. Et le taxi était très sous le choc, mais très heureux de ce qu'on avait vécu ensemble.
Inoubliable.
Bon, il a pris sa journée derrière, il n'a pas pris d'autres courses.
Ça, j'imagine. déjà, il faut se remettre quand même un petit peu. Et puis il l'avait mérité, je crois, quand même, parce que là, avec toutes ces émotions... Bonjour professeur Jacqueline Izard.
Bonjour à tous.
Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a évidemment reçu beaucoup de questions parce que ce genre d'histoire soulève à la fois des angoisses et en même temps des questions. Parce qu'on se dit, est-ce que vraiment on peut accoucher seul? C'est vrai qu'accoucher hors de la maternité, quand ça arrive, c'est une chose, mais accoucher seul, c'est un sujet parce que là, il n'y avait même pas le papa. Là, on voit avec Juliette qu'il y a eu plutôt de bons réflexes. Qu'est-ce qu'on peut donner comme principaux conseils, c'est-à-dire les choses les plus importantes, si on accouche toute seule ?
Déjà, l'exemple de Juliette est fantastique. Elle donne toutes les bonnes réponses, elle a plein de bon sens, elle fait tout ce qu'il faut quand il faut, c'est génial. Alors, d'abord, on n'a pas le choix, on le voit bien, quand ça pousse, on ne peut pas ne pas pousser, on ne peut pas retenir, on ne peut pas refaire monter ce bébé. Donc quand c'est parti, il faut écouter son corps, écouter ses contractions, pousser quand on a des contractions, de toute façon on n'a pas le choix, et surtout anticiper sur l'accueil de ce bébé. Et notre obsession à tous, c'est l'hypothermie, que ce bébé est froid. Et donc comment le réchauffer ou s'assurer qu'il ne baisse pas trop sa température, c'est le sécher, le garder contre sa peau ou le garder chaud.
Donc s'il y a une chose à avoir en tête, c'est surtout... Exactement.
L'envelopper contre sa peau, vraiment lui donner sa chaleur, la couverture de sécurité s'il y en a. Enfin, vraiment garder ce bébé chaud pour ne pas qu'il se refroidisse.
Question envoyée en vidéo pour vous, professeur, par Marianne.
Bonjour la Maison des Maternelles. Ma question, en cas d'accouchement inopiné, y a-t-il une position préférentielle à prendre, par exemple pour attraper le bébé ?
Alors, d'abord, il faut écouter son corps. Si vous êtes mieux sur le côté, si vous êtes mieux sur le dos, si vous êtes mieux accroupi, il faut vous écouter. Et on voit bien que parfois, on n'a pas le choix.
Non, ouais, quand c'est dans un taxi, bon.
pas beaucoup d'options. Mais il faut s'écouter. Et après, il faut que ce bébé il soit accueilli sans tomber. Donc, si on est mieux en position verticale, on s'accroupit, on met les mains pour l'accueillir. Il ne faut pas qu'il tombe, c'est tout. Mais après, on se met dans la position, on est confortable. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on n'est pas bien debout, on va de toute façon s'allonger, s'accroupir, se mettre sur le côté. Donc, il faut écouter son corps, il faut écouter ses contractions et être en position de pouvoir pousser et d'accueillir ce bébé. Le plus souvent, effectivement, on va s'allonger ou s'accroupir.
Enora a une question pour vous, toujours sur ces premiers gestes à accomplir. J'ai entendu qu'on pouvait clamper le cordon avec une ficelle ou un lacet. D'autres personnes disent qu'il ne faut pas y toucher. On fait quoi, du coup ? Et est-ce qu'on appelle... Attends. Qu'est-ce qu'on appelle le clampage tardif ?
Alors, d'abord, il n'y a pas d'urgence à clamper un cordon.
OK.
Il n'y a pas d'urgence. Dans la nature, ces cordons se déchiraient ou se clampaient, se coupaient quand ça arrivait. Pendant très longtemps, on ne les a pas coupés tout de suite. On voit bien que les animaux, c'est la mère qui va manger le cordon à un moment, pas tout de suite non plus. Et on a une recommandation depuis plusieurs années de faire un clampage tardif, ça veut dire de laisser un petit peu ce bébé circuler. Alors 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, ce n'est pas très long, mais pas immédiatement. Et ça améliore la façon dont ce bébé circule, donc ce qu'on appelle l'hémodynamique. Donc le clampage tardif, c'est ne pas clamper tout de suite, Mais on peut attendre, d'arriver à la maternité, il n'y a pas d'urgence.
Il n'y a pas d'urgence, c'est-à-dire que même si c'est trois quarts d'heure, une heure, ouais. ça ne pose pas de problème.
Ouais, ça ne prend jamais autant de temps, mais...
Sauf si on a couché en mer,
Non, mais de toute façon, s'il y a des bouchons, tout ça, il y a d'autres soucis, il faut s'occuper du bébé. Le cordon, vous l'oubliez.
Ce n'est pas un souci.
Non, et ça sera fait surtout proprement, avec des professionnels qui ont du matériel stérile et qui peuvent le faire proprement.
Ce qu'il ne faut pas, c'est le couper, quoi.
Alors, si vous le coupez, il n'y a rien pour empêcher le saignement. En fait, ce n'est pas dramatique, ça. Hein.
Ah oui.
Mais non, parce que faut voir que pendant des millénaires, on ne les nouait pas, on ne les clampait pas, ces cordons. Hein. On les coupait et puis...
Et on voyait bien.
et dans la nature, personne ne clampe les cordons chez les animaux. Hein. Ces cordons, ils se déchirent, ils saignent un petit peu, puis ça s'arrête. Cela dit, on n'y touche pas. C'est bien comme
c'est
ça.
Mieux.
C'est bien.
Voilà.
On n'y touche pas, on s'occupe de ce bébé, on s'assure qu'il n'est pas froid.
Et on attend les secours.
Exactement.
Céline, comment savoir qu'il est trop tard pour partir à la mat et qu'il vaut mieux rester chez toi et appeler le 15?
Alors, on appelle le 15.
Ça je crois qu'on est en train d'angoisser beaucoup de monde, là.
Ouais. Ouais, dans le taxi, c'est compliqué, le 15. Mm. Mais on appelle le 15 et on va avoir... Alors, ça dépend si c'est son premier bébé. Enfin, il y a plein de critères comme ça, parce que quand on va appeler le 15, on va avoir un ou une professionnelle au téléphone qui a une liste de questions standardisées pour évaluer l'imminence de l'accouchement au téléphone, dans la nuit, de ce qui est possible, et pour savoir quel type de secours ils envoient. Donc, en fonction des réponses aux questions, si c'est son premier bébé, comment ça s'est passé, s'il y a des saignements, si le liquide est rompu, depuis quand il y a des contractions. Donc, en fonction de la réponse à ces questions, ils vont adapter qui ils envoient. Où ils vont dire de venir à la maternité quand ça a l'air vraiment très précoce. Donc le 15, c'est une très bonne option pour savoir un peu comment faire.
On commence par une question accouchement, ça vous va ?
Allons-y.
Ouais, Agathe, elle va venir pendant ce temps-là, je pense que ça va être sympa.
Bon, c'est parce que moi, je connais les réponses. Hein. Si vous voulez, vous pouvez me demander, même à moi, donc je vais vous dire.
C'est Aurélie qui est enceinte de 7 mois de jumeaux. Elle vous demande si un accouchement inopiné peut arriver avec une grossesse gémellaire.
Alors, l'accouchement peut arriver avec n'importe quel type de... L'accouchement inopiné, avec n'importe quel type de grossesse. En revanche, les grossesses gémellaires ont la particularité de se mettre en travail plus souvent plus tôt, donc plus souvent prématurément. Mmh. Et donc, il faut savoir venir plus vite, effectivement,
quelle grossesse gémellaire. Mais mieux surveiller, mieux conseiller.
Bah, déjà, on est suivi d'un peu plus près, souvent, avec une grossesse gémellaire. Mais il ne faut pas hésiter à aller à la maternité au moindre doute, parce qu'il y a plus d'accouchements prématurés avec des jumeaux.
Mmh. Là, des jumeaux à l'arrière d'un taxi, là... Je ne sais pas quoi vous dire.
Il faut commander un grand taxi.
Oui, c'est ça. Attention, surtout, vous demandez un grand.
Non, là, ce serait vraiment périlleux.
Non, c'est compliqué, d'autant qu'il risque plus souvent d'être prématuré. Et le prématuré a plus souvent froid, a plus besoin d'aide parfois à la naissance. Donc ça, il ne faut pas jouer avec...
Non, on rigole, mais en fait, c'est un vrai sujet. Non, en cas de grossesse gémellaire, on part...
Oui, parce qu'on n'est pas sur un enfant seul, à terme, qui va aller bien. La plupart du temps, ça se passe bien. Là, ça peut être plus compliqué.
Alors là, je sens une angoisse, dont je vous le dis. Pour Sabine, avez-vous déjà entendu parler d'histoires d'accouchement inopiné où le bébé se présente en siège? Parce que c'est vrai que le siège, là, ça fait peur à tout le monde, accouchement inopiné ou pas. Donc là, pour le coup, rassurez-la.
Alors oui, ça existe. Oui, c'est l'angoisse du SAMU et des pompiers qui viennent régulièrement s'entraîner avec nous. On leur explique les manœuvres parce qu'effectivement, ça peut être plus compliqué, le siège.
Ah bah, pour le coup, là, oui.
Voilà, la tête, c'est la partie la plus grosse du bébé. Elle sort en dernier, donc il y a toujours cette hypothèque de comment ça va se passer sur la fin. Et c'est une angoisse pour tout le monde. Là, la patiente, de toute façon, la femme, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle pousse quand elle a des contractions. Il va falloir qu'elle pousse très fort aussi sur la fin pour sa tête. Mmh. Et le professionnel qui sera là, c'est encore une fois son angoisse parce qu'ils ne peuvent pas tous maîtriser les manœuvres pour lesquelles nous-mêmes, on s'entraîne régulièrement à la maternité.
Hein. Anna, vous avez des conseils ? Dans ce cas-là
Non. Enfin, là, effectivement, je me rappelle, moi, j'ai été en stage au SAMU à la Pitié.
Ouais.
On est parti sur un accouchement pour le siège et pourtant, c'était un médecin vraiment chevronné. Enfin, c'était un urgentiste chevronné. Mm-hmm. J'ai jamais vu quelqu'un avoir aussi peur de sa vie, quoi. Mm-hmm. Ah, oui. Il était tellement content d'avoir une étudiante sage-femme dans son camion. Non, ça fait peur à tout le monde. Mais d'ailleurs, souvent, ça se passe bien. Il faut leur dire.
Oui. Enfin, alors,
les
accouchements inopinés d'enfants à terme...
Ça se passe
qui se passe super vite, se passe la plupart du temps bien. C'est pour ça que l'enjeu, c'est de bien accueillir ce bébé. Voilà. Et puis, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'alternatives. Hein. Mmh. Mais effectivement...
Ce n'est pas l'accouchement en tant que tel.
Par contre, c'est un vrai risque, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est qu'il faut absolument que les bébés ne se refroidissent pas. Donc
il
faut vraiment dire à tout le monde. Voilà.
Donc on le met en dessous son pull, son t-shirt, n'importe quoi.
Ouais. Voilà. Il y a des couvertures dans les taxis, de toute façon. Non
pas forcément.
Bien, hein. Oui, pour les chiens.
Écoutez, au moins, il n'aura pas froid. Voilà. Bon, en termes d'hygiène, on ne sait pas. Juste, les accouchements en siège, pour vous, quand tout se passe à la maternité, etc., ce n'est pas une source de stress?
Si. Si, c'est toujours une source de stress, il y a une petite tension. On s'assure déjà qu'il y a pas de, que tous les feux sont ouverts, que le bébé n'est pas trop gros, que le bébé se présente bien. Enfin, on s'assure que toutes les conditions sont réunies pour que la maman puisse accoucher par le siège, que ce soit raisonnable. Donc déjà, cette étape-là, on ne peut pas le faire dans le taxi ou à la maison. Et puis après, non, c'est une petite source de stress pour l'équipe aussi. Mais
ça se passe bien la plupart du temps.
Oui.
Sinon, c'est césarienne, peut-être.
C'est une des alternatives qu'on n'a pas à la maison.
Non, mais il y a une expression qui dit à bonne dilatation, bon siège. C'est une expression qu'on a, nous. Et donc, si la dilatation se passe rapidement, ce qui est le cas dans le cas d'un accouchement inopiné, a priori, c'est que ça va aller.
Ça passe.
Ça va bien se passer.
Ouais. Il y a beaucoup de questions rapport à l'accouchement à domicile. On le sait qu'après la crise du Covid, il y a eu une tendance, je ne sais pas si elle se confirme encore dans les chiffres. J'ai entendu parler de l'ANA, accouchement non assisté. Quelle est la différence avec l'AAD, accouchement à domicile? C'est Sophie. Il y a Amandine qui dit « J'aimerais accoucher à domicile. Ma peur numéro un, c'est l'hémorragie de la délivrance, car ma mère en a fait une. » Comment ça se passe si ça arrive hors de la maternité?
Alors là-dedans, il y a plein de questions.
Ouais, hein. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un point accouchement à domicile?
Alors, il y a trois types d'accouchement à domicile. Il y a l'accouchement inopiné, donc on en a parlé. Ça arrive, on n'a pas le choix, et ça se passe la plupart du temps bien. Il y a l'accouchement à domicile qui est l'accouchement programmé à la maison avec une sage-femme, donc une professionnelle de santé. Pour en arriver là, il faut remplir tous les critères, que tout soit ouvert, qu'il n'y ait pas de contre-indication, qu'il n'y ait pas de réserve, que la patiente soit à bas risque, cette grossesse est à bas risque.
Il faut trouver la sage-femme qui accepte.
Il faut trouver la sage-femme, ça c'est encore une autre étape. Mmh. Et puis, il y a l'ANA, l'accouchement non accompagné. Alors là, c'est notre angoisse à tous professionnels, parce qu'il n'y a aucun professionnel présent lors de cet accouchement, et donc il n'y a aucun professionnel qui peut avoir un regard de professionnel sur le déroulement de cette naissance, et un regard professionnel sur l'état de cet enfant à la naissance, sur les saignements. Voilà. Donc ça, ça fait partie des choses qui, nous angoissent en tant que professionnels. Qu'il n'y ait aucun professionnel à l'accouchement, sur un accouchement programmé à la maison, pas l'inopiné.
D'accord.
Et donc, l'hémorragie?
Oui, alors l'hémorragie. Déjà, sa mère en a fait une. Est-ce que ça peut... Il y a plus de risques, non?
Non, si elle en a fait une, donc c'est une contre-indication à accoucher à la maison, déjà avoir un antécédent d'hémorragie du postpartum. Ensuite, l'hémorragie du postpartum, c'est la cause la plus fréquente de transfert postnatal pour la maman. Donc, effectivement, on essaye de s'assurer qu'elle n'ait pas de facteur de risque, qu'elle n'est pas anémie, qu'il n'y a pas de problème de coagulation. Et puis, on essaye de s'organiser pour que ce transfert se fasse le plus vite possible sur un centre qui a les compétences et les capacités pour accueillir une hémorragie du postpartum.
Les problèmes de coagulation, c'est les prises de sang qui permettent de décider pendant la grossesse.
Exactement. Mais encore une fois, les femmes qui ont un projet d'accouchement à domicile et qui trouvent une sage-femme pour les accompagner,
tout ça, j'imagine que
doivent
c'est...
s'assurer que tout est normal, qu'il n'y ait aucun petit caillou dans la chaussure, Et ça ne garantit pas, bien sûr, que tout se passe bien, mais comme à l'hôpital. Hein.
Ouais. Dorothée vous demande, j'entends tout et son contraire sur la perte du bouchon muqueux. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est le signe d'un accouchement imminent?
Alors, le bouchon muqueux n'est bien sûr pas un bouchon et ne retient rien. Le bouchon muqueux, c'est cette glaire cervicale qui est à l'intérieur du col et qui va s'évacuer quand le col commence à travailler. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y a un accouchement qui est imminent. Ça veut juste dire que le col travaille, simplement.
Le travail se met en place doucement, mais sûrement.
C'est pas le travail, c'est le col qui commence à se modifier, et l'accouchement peut arriver des semaines, voire des mois plus tard, comme il peut se mettre tout de suite en route.
Il n'y a pas de règle,
et on peut perdre le bouchon à tout moment, on peut ne pas le perdre parce qu'on ne s'en rend pas compte non plus. Donc c'est un détail plus anecdotique qu'un détail utile.
Non.
Question de Raphaël. Si on est seul et que les secours arrivent après la délivrance, sent-on le placenta arriver après le passage du bébé? C'est vrai qu'on n'a pas parlé du placenta au cas d'accouchement inopiné.
Alors, est-ce qu'on le sent? Ça, c'est une question qui est sûrement.
Oui, ça vous et moi, on ne peut pas...
Mais en revanche, il y a une petite pause entre la naissance du bébé et la délivrance, donc la sortie de ce placenta. Et dans cette petite pause, il y a une petite accalmie, et puis là, reprennent les contractions, reprennent les saignements. Ça veut dire que le placenta est en train de se décoller.
C'est quoi, c'est un quart d'heure, la petite pause?
C'est variable d'une femme à l'autre. Hein. Certaines, c'est assez rapide, d'autres, ça ne se met pas en place, justement, c'est un des soucis. Et donc, quand ces contractions reprennent, on accompagne les contractions comme on le sent. Si on a envie de pousser, on pousse et on fait sortir ce placenta. Plus ce placenta sort vite, mieux c'est pour nous.
Je ne me rappelle pas du tout, c'est normal?
Non. Oui,
parce que accouchements, je ne me rappelle pas de cette phase.
Oui, quand on a son bébé dans les bras, le professionnel digère ça.
C'est sorti tout seul.
Mais ça n'arrive pas qu'on le laisse, je pense que c'est la question.
Non, on essaie de ne pas l'oublier.
De ne pas l'oublier, le placenta.
Vous êtes la seule personne en Europe de l'Ouest
qui a encore
son placenta. Les deux, oui,
les
effectivement.
Les deux, c'est placenta.
Voilà. Et vous vous dites, s'il prend un petit peu de ventre, non, c'est les placentas.
Ah, c'est ça.
Vous inquiétez pas.
Vous posez des questions ou il n'y a que moi qui
bosse ? Je crois que c'est vous, en fait, là.
Karine vous demande, est-ce que c'est possible qu'un bébé naisse sans que sa poche des os soit percée ?
Oui.
C'est quoi le nom ? Oui, c'est un bébé qui naît coiffé ou en cours. Enfin, il y a plusieurs termes comme ça. Et effectivement, il peut descendre avec sa poche des os. La plupart du temps, elles seront à un moment ou à un autre. Mais oui, c'est possible. Ça ne change pas grand-chose. Et sur l'accouchement inopiné, bon, c'est un détail. Ça.
Mais vous aimez bien les accouchements coiffés ? Ça vous fait un petit effet ?
Oui, bah, on dit à tout le monde, viens voir. Mais mais ça arrive pas souvent, c'est pour ça.
C'est incroyable, il y a des bébés dans le bazar.
C'est magnifique, on le voit. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit le bébé comme
dans son scaphandre.
Dans le ventre.
Dans son scaphandre.
C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est.
Oui.
Voilà. Alors, c'est toute cette vision qu'on fantasme pendant 9 mois qu'on voit en fait. Qu'est-ce qu'il y a, Yasmine ? Ça ne la fait pas pour se fantasmer le bébé dans
Non, ça y est, je vais poser une question, puisque Benjamin dit que je ne fais pas mon travail, je vais le faire, absolument, maintenant. Fatima, donc on est toujours sur les accouchements à domicile, je vous dis, ça fait un peu flipper. Si on fait le choix d'accoucher à domicile avec une sage-femme, est-ce qu'on doit parallèlement s'inscrire dans une maternité ? Vous pouvez répondre tous les deux, d'ailleurs, là-dessus, je pense.
Alors, ça dépend où on habite. Parce qu'il y a des endroits et des régions de France qui sont plus ou moins bien organisées. Dans Paris intramuros, c'est plutôt bien organisé, où on a systématiquement une inscription dans une maternité.
Quand bien même on aurait fait ce choix d'accoucher à domicile.
Oui, parce que quand on fait le choix, on ne connaît pas la suite. Quand on fait le choix, on ne sait pas comment va se passer fin de grossesse, comment va se passer cet accouchement et comment va se passer ce postpartum. Et en cas de besoin de soins médicaux, là tout à l'heure on a parlé de l'hémorragie du postpartum, bah, en cas de besoin de soins médicaux comme une hémorragie du postpartum, cette patiente va être transférée la plupart du temps par le SAMU dans une maternité, idéalement dans la maternité où il y a l'inscription, où il y a le dossier d'anesthésie, où il y a la carte de groupe et où il n'y aura pas de retard à la prise en charge, cette prise en charge sera optimale.
Voilà, merci beaucoup au professeur Jackie Nizar, c'est toujours un plaisir de le recevoir dans l'émission La Maison des Maternelles. Merci à Juliette qui était donc avec Agathe Lecaron. On se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast des Maternelles. Ciao tout le monde !